Parole protestante sur RCF Anjou.
Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous trois actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comme chaque premier dimanche du mois, nous proposons un entretien sur la prière. Aujourd'hui, notre partage porte sur la prière en lien avec la Pentecôte. Avant de parler de la prière, que pourriez-vous nous dire de la Pentecôte? Quelle est cette fête chrétienne? Daniel, vous voulez commencer?
Oui, bien sûr. En fait, peu de chrétiens sont conscients que c'était une fête juive. Et c'était même une des trois fêtes essentielles et obligatoires pour les juifs, avec celle de Pâques et celle des tabernacles qui se fête fin septembre, début octobre. À l'origine, cette fête avait été instituée pour célébrer les bénédictions du Seigneur. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, d'ailleurs du miel de date, soit sept aliments liés aux sept semaines qui séparent Pâques de Pentecôte. Le chiffre 7 dans la Bible a toujours la connotation de perfection. Cette fête est appelée Shavuot. Le livre de la Bible lu ce jour-là dans les synagogues est celui de Ruth, la Moabite. Elle a suivi sa belle-mère en disant « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Et ce magnifique récit se passe justement durant la moisson. Ruth glane dans les champs de Boaz, et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'une des deux femmes d'origine païenne que l'on trouve dans la généalogie de Jésus.
Merci Daniel pour cette précision.
Si vous permettez, juste encore une anecdote Jean-Pierre.
Je vous en prie Daniel.
Avec Bernard, nous nous étions un peu perdus dans la ville d'Hébron. Et finalement, ce fut super car dans une impasse, nous nous sommes retrouvés de manière inattendue devant la tombe de Ruth et celle de son fils Jessé, un proche aïeul du roi David. Et pour compléter et conclure mon propos sur elle, du fait de son attitude envers sa belle-mère, Boaz, qui est devenu son mari par la suite, a prononcé cette bénédiction « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier ». Cette bénédiction se réalise encore aujourd'hui puisque nous évoquons son nom toujours. Et donc je vous invite tous à lire ce beau livre de Ruth.
Ah ouais, vraiment.
Merci pour cet encouragement Daniel. Bernard, avez-vous quelque chose à ajouter sur la fête de Pentecôte?
Oui, je voudrais préciser qu'après le retour de l'exil de Babylone, le peuple juif qui a été reconstitué changea progressivement la signification de cette fête de la Pentecôte. En fait, de la fête agricole qui était à l'origine et dont Daniel vient de nous parler, la Pentecôte est devenue aussi la fête commémorative du don de la Torah au Mont Sinaï. Mmh. En particulier les 10 commandements, mais on peut pas réduire la Torah à ses seuls commandements. Ben, pour prendre un raccourci, c'est comme si nous, chrétiens, nous avions une fête spécifique chaque année pour le don de la Bible, ce qui n'est pas le cas encore, en tout cas pas aujourd'hui. Alors une des paroles les plus fortes qui unifie la Torah et le peuple d'Israël encore aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le Shema Israël, tiré du livre du Deutéronome, où il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un ». Ce Shema est tellement important qu'il est inscrit sur une menorah immense, un chandelier là, en face de la Knesset, le Parlement israélien. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, hein, mais ici, le Shema Israël, il a deux lettres majuscules qui, à sa lecture, veut dire « témoin ». En fait, Israël est le témoin dans ce monde de l'unicité de son Seigneur. C'est quand même extraordinaire.
C'est très riche. Auriez-vous peut-être un dernier élément concernant ce don de la Torah? Ce sont bien les 5 premiers livres de la Bible, hein, n'est-ce pas Daniel?
Oui, Jean-Pierre, c'est bien ça. Alors pour relier le Premier Testament au Nouveau, en ce qui concerne la fête de Pentecôte, il faut aussi prendre en compte l'idée de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est là quelque chose d'essentiel car le Nouveau Testament est vraiment une prolongation du Premier Testament. Le don de la Torah est une des alliances dans laquelle Dieu dit « Je vous rends libre » et où le peuple répond « Ce que le Seigneur a dit, nous l'écouterons et le ferons ». Bon, il y a là un genre de partenariat entre Dieu et le peuple d'Israël, Bon, en réalité, ce fut plus compliqué à vivre encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Ah oui, vraiment.
Très instructif, tout ça. Il est vrai que si on ne lit que le Nouveau Testament, on ne s'imagine pas les racines multiples et intéressantes de cette fête. Je note dans vos propos que la foi chrétienne est fortement enracinée dans l'histoire juive.
Eh, vous avez tout compris, Jean-Pierre. La foi chrétienne prend ses racines et demeure dans l'histoire juive. Il n'est pas inutile d'insister sur le fait que Jésus est d'origine juive.
En effet, merci Daniel. Bernard, pour revenir à Pentecôte, que pourriez-vous nous en dire?
Ben, il est dit que environ 120 disciples de Jésus se réunissaient régulièrement ensemble pour prier. Le texte précise que ce jour-là, ils étaient tous là en prière. En fait, ils répondaient ainsi à l'ordre de Jésus, et je le cite, « Il leur donna cet ordre, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. » Alors les disciples ont écouté. Je peux même dire que les disciples ont obéi à Jésus et sont restés à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse qu'il a faite s'accomplisse. Permettez-moi de souligner un aspect de la Pentecôte qu'on occulte, mais alors complètement, c'est celui de l'obéissance. Un mot qu'on n'aime pas trop, hein, tant il revêt un aspect de contrainte et d'obligation. Pourtant, cette obéissance était la condition pour recevoir la promesse ou la bénédiction promise. J'insiste car il arrive souvent que des personnes veulent recevoir les bénédictions, mais sans obéir, sans faire ce que Jésus demande. Il y a des règles spirituelles qu'il nous faut suivre, c'est ainsi.
Avez-vous donc des exemples à nous donner, Daniel, qu'en pensez-vous?
Bien oui, bien sûr, c'est pas forcément le sujet, mais puisque vous me posez la question, je pense à tous ces passages de l'évangile où il est dit « il faut » ou « il fallait ». Par exemple, Jésus le dit au chef religieux Nicodème « il faut que tu naisses de nouveau ». Il y a là un impératif pour avoir la vie éternelle. L'obéissance s'est aussi appliquée à Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit « bien qu'il fût le Fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert ». Alors pour revenir à la Pentecôte, elle est très liée à la prière. À partir du moment de l'ascension de Jésus, il nous est dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Au passage, c'est la dernière citation de Marie, mère de Jésus, dans la Bible. Si les 120 disciples avaient dit « ça fait 8 jours que nous sommes là et rien ne se passe, on va faire autre chose », il n'y aurait peut-être pas eu des fusions de l'esprit à la Pentecôte.
Oui, c'est sûr.
Ils devaient rester à Jérusalem, ils devaient prier tous ensemble, ils devaient attendre que la promesse de Jésus devienne réalité.
Ça paraît évident en effet. On continue d'en parler de suite, restez avec nous, on revient dans une fraction de seconde.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous sommes toujours dans l'émission Parole protestante. Nous parlons de la prière liée à la fête de Pentecôte. Bernard, racontez-nous, que s'est-il vraiment passé ce jour de la Pentecôte?
Ah ben, le texte des Actes des Apôtres nous relate que les disciples de Jésus, qui priaient généralement tous ensemble, l'étaient à nouveau ce jour-là, dans un même lieu. Il faut retenir, ils priaient ensemble, en attente de la réalisation de la promesse de Jésus. Et il nous est dit, tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, quand même, la description n'est pas aisée. L'auteur a de la difficulté à nous faire comprendre cet événement, hein, parce que il est hors norme. Il ne s'était jamais produit jusque-là. Ce que l'on peut dire, c'est que la maison et les disciples ont été remplis de l'Esprit-Saint. On ne sait pas trop ce que sont ces langues de feu, mais la traduction visible de ce phénomène c'est qu'ils parlaient dans des langues étrangères, puisque les pèlerins venus adorer Dieu ont entendu distinctement qu'ils parlaient, je cite, de merveilles de Dieu dans leur langue maternelle.
Mmh, c'est un peu étrange. Hein,
ah, extraordinaire.
À quoi ça sert de parler en langue, Daniel ?
Alors, avant de disserter sur le parler en langue ou don des langues, l'important, le plus important d'ailleurs, c'est que les disciples soient remplis de l'Esprit-Saint. Et ce, pour une raison évidente, être des témoins de Jésus et faire lui, les mêmes œuvres que lui, entre autres des guérisons, miracles, délivrances de démons. Voilà, il le fallait. Donc Jésus avait dit, Jean le Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
C'est ça.
Le Saint-Esprit, c'est celui qui a mis en œuvre la création de l'univers. Celui qui a permis à une femme vierge d'enfanter. C'est lui qui agit lorsque Jésus ressuscite un mort. Le mot employé en grec, c'est dynamis, qui donne la racine des mots dynamique, dynamite, avec l'idée de puissance. Souvenez-vous, Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit à la suite de son baptême.
Très bien, Daniel. Mais je reviens à ma question initiale du parler en langue. Est-ce que vous aussi, à la suite des disciples des Actes des Apôtres, vous parlez aussi en langue aujourd'hui ? Permettez-moi donc d'aller plus loin. Si oui, à quoi ça vous sert ?
Alors oui, je parle dans une langue reçue par l'Esprit-Saint. Cela me sert pour louer Dieu. Rappelez-vous qu'il est dit des disciples qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Donc ça me sert aussi dans la prière d'intercession. Et pour reprendre ce que dit l'apôtre Paul pour lui-même, ça permet de s'édifier soi-même.
Ce n'est pas banal. Bernard, qu'en est-il de vous ?
Ah ben, moi aussi, j'ai été baptisé de l'Esprit. D'ailleurs, peu de temps après mon baptême d'adulte. Et d'ailleurs, c'était dans une pièce où mon père avait stocké ses livres de magie et d'occultisme. Comme le disait Daniel, l'apôtre Paul dit, lui, que cette puissance que Jésus met à notre disposition, à nous aujourd'hui, c'est la même puissance extraordinaire qui a ramené le Christ d'entre les morts. Ce serait quand même dommage de ne pas vivre avec le Saint-Esprit. Hein. Et pour relier à nouveau les deux testaments, Pierre, dans son explication du phénomène de Pentecôte, il dit « Je répandrai mon esprit sur tout être humain, sur vos fils et vos filles, deviendront des prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens, par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ce jour-là. » Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. C'est le prophète Joël qui nous rapporte ça. Et donc pour faire écho à ce que nous disions en préambule, si la rencontre de Dieu avec son peuple au Sinaï est une alliance et la fondation du peuple hébreu, la Pentecôte, des Actes des Apôtres et la rencontre du Saint-Esprit et du peuple de Jésus. C'est en quelque sorte la naissance de l'Église, même si on pourrait aussi dire que l'Église est née dès que Jésus était en croix.
Merci Bernard. Très instructive cette émission. Merci à vous deux. Notre partage se termine déjà. Je dois retenir deux idées fortes de celle-ci. Je dirais que Jésus a été baptisé de l'Esprit-Saint, celui-là même qui a créé le monde et qui a ressuscité Jésus, et qu'aujourd'hui encore, il est logique que tous ses disciples soient aussi baptisés dans le même esprit, ce afin de témoigner de la vie de Jésus. Avant de poursuivre cette émission, nous proposons une pause musicale avec le chant « Esprit de Dieu » du collectif « Cieux ouverts ». Restez à l'écoute, notre émission se poursuit dans quelques instants.
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Souffle du sud, souffle de...